Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Les élections européennes se dérouleront du 23 au 26 mai. La campagne électorale bat son plein et avec elle son lot de déclarations mensongères ou erronées et de fausses nouvelles, les fake news. C'est pour les contrer que des médias s'associent, pour fact-checker, vérifier ensemble les faits et démêler le vrai du faux. Vous entendrez successivement Jules Darmanin, qui coordonne l'action de 19 médias européens contre les fake news à l'approche du scrutin. Puis Éric Nahon, directeur adjoint de l'école de journalisme IPJ Paris-Dauphine, nous racontera comment, avec ses étudiants, il alimente le site eufactcheck.eu qui rassemble une vingtaine d'écoles de journalisme européennes.
http://atelier.rfi.fr
Internet est un terrain de jeu dangereux. Dès ses origines, le parti populiste a confié sa communication à un cabinet de marketing Internet, la spécialité de son mentor, qui a cofondé le mouvement 5 étoiles, diffuser une fausse information en ligne et convaincre l'opinion que la classe politique leur cache la vérité.
Vous venez d'entendre un extrait d'une web-série intitulée « L'Europe en vrai ». Elle est diffusée par RFI et déconstruit 6 infox très répandues concernant l'Europe. Place maintenant à notre premier invité.
RFI.
Je m'appelle Jules Darmanin, je suis le coordinateur du projet Fact Check EU qui rassemble 19 médias dans 13 pays d'Europe et ce qui fait qu'on couvre 11 langages dans le projet.
Alors ces médias se sont rassemblés pour faire du fact-checking autour des élections européennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'est venue cette idée ?
Il y avait déjà le constat que les fausses informations circulaient à travers l'Europe. Ce qui fait que une fausse information qui va d'abord apparaître par exemple en Allemagne ou en Europe centrale, progressivement va aller vers les autres pays, va être traduite en anglais, puis ensuite dans les autres langues de l'Union européenne. Et donc ça, c'est un constat qui a été fait bien avant les élections européennes et à l'occasion des élections européennes. Et pour savoir un peu, quand les médias se sont demandé un peu quelle réponse on pouvait donner à ça, il y a eu cette idée de collaboration à la fois sur les élections européennes, sur l'Europe, mais aussi sur les thèmes en fait de la campagne des élections européennes, que ce soit les migrations, que ce soit l'écologie ou d'autres thèmes qui peuvent un peu influencer la campagne.
Donc l'idée, ce n'est pas seulement de vérifier le discours politique, mais également tout ce qui tourne autour.
Bien sûr, il y a certains des médias qui sont partenaires, qui sont vraiment spécialisés dans ce qu'on appelle le fact-checking politique, c'est-à-dire prendre les déclarations de personnalités politiques et les traiter. D'autres médias sont spécialistes de ce qu'on appelle le debunking ou le fact-checking de fausses informations. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et démontrer que ce sont des rumeurs. Et ça, c'est deux styles différents, c'est deux pratiques qui sont légèrement différentes, mais qui se retrouvent finalement assez souvent. Et c'est un peu les deux choses qu'on retrouve principalement sur la plateforme.
Comment est-ce que vos médias partenaires, justement, choisissent les sujets dont ils s'emparent ?
Ça dépend de chaque média. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important. C'est de comprendre que les fausses informations et les thèmes des fausses informations dépendent assez souvent du discours politique d'un pays. C'est-à-dire, typiquement, en Espagne, il y a Vox, le parti d'extrême droite qui a fait son entrée dans les élections législatives en Espagne. Vox a un discours qui touche beaucoup les questions des lois qui défendent les droits des femmes contre les violences genrées. Et donc, ils ont un discours qui est très contre l'arsenal législatif espagnol contre les violences contre les femmes. Ils considèrent que c'est des lois qui sont trop biaisées ou qui, en tout cas, mettent en danger un certain nombre d'hommes. Et donc, il y a beaucoup de fausses informations en Espagne autour de ces thèmes-là. Ce qu'on va moins retrouver dans d'autres pays. En Italie, en ce moment, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a un discours très fréquent sur les populations roms. Donc il va y avoir plus de fausses informations sur sur les Roms en Allemagne, qui est un pays qui fait partie de ceux qui a recueilli le plus de réfugiés ces dernières années, il va y avoir plus de fausses informations sur les réfugiés. Donc c'est un peu tout, dans chaque pays finalement, les médias vont se concentrer aussi sur quel est le discours politique et quel est un peu le discours ambiant dans leur pays, et ça va informer ce qu'ils traitent.
A-t-il été facile et est-il facile de faire collaborer, vous l'avez dit, 19 médias de 13 pays dans 11 langues différentes? Y a-t-il des façons de fonctionner qui diffèrent, et également des thématiques qui, pour le coup, elles sont transnationales et qui donc peuvent être adaptées d'une langue vers l'autre?
Alors, il y a plusieurs choses. D'un point de vue des thématiques, on trouve quand même qu'il y a des similitudes. Je parlais tout à l'heure des migrations. De fait, les migrations, c'est un thème qui touche de façon transversale les pays d'Europe, ce qui fait que on va trouver des fausses informations à ce sujet-là dans tous les pays, et notamment, en fait, les mêmes fausses informations. Il y a d'autres sujets. Les fausses informations sur l'Europe en tant qu'institution également sont des choses qu'on va trouver d'un pays à un autre. Ensuite, pour ce qui est de la collaboration, les médias font tous partie du réseau qui est le réseau international de fact-checking, qu'on appelle aussi l'IFCN en anglais, ce qui fait qu'ils ont tous des critères de transparence qui sont similaires. Ça, c'est important.
Ils ont tous signé une charte donc qui engage ces signataires à respecter 6 engagements de transparence, d'éthique, de méthodologie et d'impartialité. C'est bien ça?
Alors, ils ont non seulement signé une charte qui garantit leur engagement, mais ils sont aussi contrôlés sur la base de cette charte par des personnes indépendantes de ces médias dans chaque pays, qui vérifient que les éléments de cette charte soient bien respectés. Et donc ça fait qu'il y a quand même une cohésion d'un point de vue éthique. Après, il y a des différences, évidemment, au niveau de la langue, aussi au niveau du style de rédaction. Et ça dépend énormément de la culture médiatique de chaque pays. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, pour moi, de voir que d'un pays à un autre, il y a des façons très différentes de s'adresser au public. Et donc ça, c'est quelque chose qui exige un peu d'uniformisation, mais qui n'empêche pas la collaboration en tant que telle. Après, évidemment, il y a une langue de communication qui est l'anglais, qui est aussi la langue principale de publication, non pas parce qu'on s'adresse principalement aux citoyens d'Irlande et du Royaume-Uni, mais parce que en Europe, la moitié de la population a un niveau suffisant d'anglais pour comprendre ce qu'on écrit. Et c'est vrai que dans les pays scandinaves, ou dans d'autres pays d'Europe, il y a un niveau d'anglais qui est assez élevé, et on essaye de traduire aussi dans les autres langues de notre projet où il y a moins de locuteurs de l'anglais, comme en Espagne, en Italie ou en Grèce.
Jules Darmanin, ce qui est intéressant aussi avec cette plateforme FactCheck EU, c'est le fait que les internautes peuvent poser des questions sur le même principe que Check News de Libération en France. Donc ils peuvent poser des questions et soumettre des sujets de fact-checking.
Absolument, ça c'est quelque chose qui émane en effet de Libération et de Check News, qui est un partenaire et qui a grandement participé au lancement de FactCheck EU, notamment grâce à une bourse qu'ils avaient reçue du réseau international de fact-checking. Et donc ce qui fait que on a un module de questions-réponses qui s'inspire très clairement de celui de Check News et qui permet plusieurs choses. Ça permet de voir quels sont les éléments que nous n'avons pas vus, quelles sont les éventuelles fausses informations que nous n'avons pas vues. Ça permet de réduire un biais également, un biais de sélection auquel aucun journaliste ne peut échapper. Et ça permet de voir quelles sont les questions que les gens se posent. Et ça permet aussi, dans le cadre de l'Europe, non seulement de combattre la désinformation, mais aussi de pallier à un manque d'informations sur l'Europe. La population européenne a une connaissance relativement faible des institutions européennes et de ce qu'elle fait. Et donc, les questions que les gens nous posent, c'est assez fréquemment sur l'Europe en tant qu'institution, et c'est pas forcément des questions sur de la désinformation, c'est juste je cherche cette information sur ce que fait l'Europe et je ne la trouve pas en faisant une recherche sur Google, donc je vous la pose.
Donc c'est un service public en fait de vérification de ces infos?
Alors un service public, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un service, oui, c'est un service. Et c'est oui, je sais pas, je me qualifierais pas de service public parce que bon, c'est pas tout à fait la façon dont on fonctionne, mais en tout cas, c'est un service qui est proposé aux citoyens.
Dans les discussions que vous avez avec les 19 médias partenaires de FactCheck EU, constatent-ils vos partenaires un volume de fausses informations important autour de ces élections européennes?
Un volume important, je ne sais pas. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une échéance, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, à chaque fois qu'il y a une échéance, il y a une recrudescence de fausses informations. On a constaté ça avec à peu près chaque élection. D'ailleurs, on constate aussi ça dans les élections nationales. Il y a eu celle en Espagne récemment, mais il y a aussi celle en Lituanie ce week-end, enfin, dans pas longtemps. Et donc ça, c'est sûr qu'il y a une recrudescence de fausses informations. Par rapport à l'Europe, il y a une augmentation des choses sur l'Europe, mais il n'y a pas une déferlante absolue de fausses informations autour de l'Europe. Je pense que une des raisons pour lesquelles il n'y a pas une déferlante de fausses informations, c'est que dans la plupart des pays, les élections européennes restent quand même des élections nationales, où on va parler de thèmes nationaux qu'on va appliquer à l'Europe, mais ça engage rarement un débat énorme sur l'Europe, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on a vu évidemment en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni avec le Brexit.
Lors des élections présidentielles américaines, on a beaucoup pointé du doigt l'ingérence russe à travers les fausses nouvelles. Et autour de ces élections européennes, certains voudraient voir un rôle de la Russie. Et je crois que ce que vous pensez, vous, Jules Darmanin, c'est que nous n'avons pas besoin, et ceux qui veulent diffuser des fausses nouvelles à travers le continent européen n'ont pas besoin de la Russie.
Il y a plus que la Russie finalement. La Russie, et ça s'est prouvé, a des tactiques d'ingérence qu'elle a eues aux États-Unis, qu'elle a en Ukraine et qu'elle a potentiellement en Europe. Je n'ai pas d'éléments qui permettent de le montrer désormais, mais ce ne serait pas quelque chose de surprenant. Ce ne serait pas surprenant que d'autres pays également aient les mêmes pratiques à diverses échelles. Donc ça, c'est une chose. Et en effet, la Russie est un pays qui pratique un soft power qui est très important à travers ces médias que sont RT et Spoutnik, mais également à côté de ça, une désinformation plus clandestine à travers ce qu'on a appelé les usines à trolls à Saint-Pétersbourg qui diffusent des fausses informations ou qui manipulent les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Mais si on se focalise sur la Russie et qu'on considère que la Russie est la seule et l'unique cause de désinformation dans un espace qu'est l'Europe, je pense qu'on passe à côté beaucoup de choses. Déjà, on passe à côté de la désinformation qui vient des personnalités politiques des pays d'Europe. On passe aussi à côté de la désinformation qui circule de façon organique. Dans les réseaux sociaux, en France et dans les autres pays d'Europe et d'ailleurs de partout dans le monde. Et donc, en pointant un espèce de projecteur sur une seule cause, je pense qu'on court le risque d'ignorer les autres causes de désinformation. Et en tout cas, moi, dans ma démarche de coordinateur de ce projet qui est FactCheckEU, je me concentre relativement peu, ça veut pas dire que j'ignore, mais je me concentre relativement peu sur les causes, parce que c'est pas toujours facile à trouver les causes d'une désinformation, et j'essaie plus de lutter contre les conséquences et de lutter contre la propagation de la fausse information. Il se trouve que quand on s'est un peu intéressé aux causes et qu'on a essayé de remonter vers les causes de la propagation d'une fausse information, moi je suis déjà tombé sur la Hongrie et sur les médias publics hongrois, je suis déjà tombé sur des, je suis souvent tombé sur des responsables politiques nationaux, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de grands réseaux de désinformation russe, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas les éléments qui montrent que c'est actif dans les élections européennes.
Avez-vous prévu quelque chose de particulier sur la plateforme FactCheck EU pour les jours spécifiques de vote des élections européennes?
On va être particulièrement vigilant et je pense qu'on va être particulièrement réactif également, parce que c'est vrai que les jours de scrutin, il y a beaucoup de fausses informations sur le scrutin en tant que tel. Et donc il y a à la fois ce qu'on appelle des actions de... Alors en anglais c'est voter suppression, ça veut dire qu'en gros on essaye d'empêcher des gens d'aller voter. Ce qui veut dire qu'on va leur donner des consignes fausses par rapport au vote, où on va leur dire il faut y aller à telle heure ou il faut pas y aller, ou on va leur donner des fausses informations par rapport au déroulement du vote en tant que tel. Et ça, je pense que c'est important de veiller à ça, d'autant plus que les procédures de vote sont différentes dans chacun des pays. Et puis il y a également des fausses informations sur les conséquences du vote. Par exemple, ce qu'on a vu en Espagne la semaine dernière, c'est que à la veille du vote, on a expliqué que si il y avait une majorité de partis qui soutenaient l'indépendance catalane dans l'Assemblée espagnole, l'Union européenne allait obliger l'Espagne à tenir un référendum national sur l'indépendance de la Catalogne, ce qui est faux. Mais ça, c'est une rumeur qui a été diffusée juste avant les élections. Et ça, c'est des choses qui sont destinées, évidemment, à convaincre certains abstentionnistes ou au contraire à démotiver certaines personnes qui pour qui, par exemple, l'indépendance de la Catalogne, c'est pas le thème principal de leur choix, mais qui ne veulent pas de référendum. En fait, c'est pour changer le poids de certains problèmes dans la décision finale des électeurs. Et donc ça, c'est des choses auxquelles on va en effet faire attention.
Et que va devenir le site factcheckeu.info au lendemain du vote?
Ça, c'est quelque chose qu'on doit encore décider, sur lequel on n'est pas encore arrêté. Je pense qu'une fois que les élections sont finies, moi j'ai encore un peu de travail avec les responsables du réseau international de fact-checking et les partenaires pour déterminer quel a été le succès de la plateforme, quel est son avenir et quelle forme prendra un peu cette structure de collaboration à l'avenir. Mais ça, il faut qu'on attende le scrutin pour en décider.
Comment on mesure le succès, justement? C'est l'impact, c'est les reprises sur les réseaux sociaux, les reprises par d'autres médias?
C'est à la fois l'impact, c'est savoir à quel point on a réussi à promouvoir la collaboration entre les partenaires. C'est tout simplement des statistiques chiffrées, de visites, de réactions, et c'est aussi à quel point on a pu corriger le débat public en faisant en sorte que quand une personnalité politique dit quelque chose qui est clairement un mensonge, elle ne le dise pas deux fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup à l'échelle nationale. Et je reprends l'Espagne, parce que justement, il y a eu des élections en Espagne la semaine dernière. Et les fact-checkers, nos partenaires fact-checkers en Espagne, ont constaté que une des conséquences de leur travail, c'était de faire en sorte que les personnalités politiques ne répétaient pas un mensonge deux fois. Elles le disaient une première fois, elles se faisaient attraper, elles ne le disaient pas une deuxième. Et ça, je pense que c'est une, en effet, des conséquences concrètes du fact-checking, même si c'est toujours un travail de Sisyphe contre des désinformations qui sont forcément plus virales, ou en tout cas très souvent plus virales que l'article qui les fact-check.
Merci Jules Darmanin.
De rien.
Et je rappelle que vous êtes coordinateur de FactCheck EU, une plateforme qui rassemble 19 médias européens de fact-checking autour des élections européennes. Pour plus d'informations, leur site c'est factcheckeu.info.
Atelier@rfi.fr.
Avant de poursuivre, deux informations en bref. Facebook ouvre une war room pour les élections européennes. Le réseau social a décidé de mettre en place une cellule de vérification au sein de ses bureaux basés en Irlande. L'objectif de cette war room est de veiller à ce que la propagation de fausses informations, de faux comptes et de possibles ingérences étrangères n'ait pas d'impact sur l'issue des élections européennes. 40 personnes y participent. Aucun chiffre n'a pour l'instant été communiqué sur ces potentielles premières actions. L'heure est donc à la prudence et le responsable cybersécurité de Facebook reconnaissait dans une interview au Guardian « Nous ne pouvons pas gérer tous ces problèmes seuls ». On vous parlait la semaine dernière de deux journalistes de l'agence Reuters en Birmanie. Ils étaient détenus depuis leur arrestation en décembre 2017 alors qu'ils enquêtaient sur un massacre commis contre la minorité musulmane des Rohingyas. Mardi, on a appris leur libération suite à une amnistie présidentielle. Ils clamaient haut et fort dès le début avoir été piégés par la police. Notons la mobilisation exemplaire de l'agence Reuters qui écrivait dans une dépêche dès leur arrestation « C'est une atteinte grossière à la liberté de la presse ». Et sachez qu'ils ont passé au total plus de 500 jours en prison simplement pour avoir fait leur métier. Poursuivons notre émission sur le fact-checking autour des élections européennes avec un projet porté par 20 écoles de journalisme en Europe. Les étudiants de l'IPJ à Paris y participent et pour en parler, j'ai tendu mon micro à Éric Naon.
Bonjour, je m'appelle Éric Naon, je suis journaliste et directeur adjoint d'IPJ Paris Dauphine.
Avec vos étudiants, vous avez lancé le site eucheck.fr. Expliquez-nous.
Eucheck.fr, c'est un site pilote qui servait à tester une méthodologie de fact-checking développée dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle eufactcheck.eu. Et eucheck.fr, ça mélange des étudiants en journalisme, des étudiants en sociologie affaires publiques et des étudiants ingénieurs aux mines, pour travailler ensemble sur des thématiques environnementales et européennes.
Et donc en vue des élections européennes, cette année, vous avez décidé d'associer des étudiants en journalisme avec des étudiants d'autres disciplines de l'université Dauphine. Expliquez-nous.
L'idée était vraiment de mélanger, de construire des projets avec des élèves qui sont journalistes et d'autres qui ne sont pas journalistes, pour qui l'information n'est pas une priorité. Leur priorité aux étudiants des mines, c'est l'environnement. Les étudiants en sociologie, eux, c'était plutôt de travailler sur notre méthodologie et de travailler sur les points de controverse dans l'Union européenne. Travailler sur les plastiques, travailler sur les voitures intelligentes, travailler sur les GAFA, travailler sur l'immigration. Donc tout ça donnait un mélange assez intéressant d'équipes pluridisciplinaires qui travaillaient pour produire des objets à vocation journalistique ou en tout cas des objets à vocation informative, avec des vidéos, avec des textes, pour travailler sur des assertions douteuses ou en tout cas qui nécessitaient d'être vérifiées.
Est-ce que c'était une évidence pour des jeunes journalistes ou des aspirants journalistes de travailler sur des questions de fact-checking justement ?
Oui et non. Oui, parce qu'il y avait un vrai appétit, parce qu'effectivement, le fact-checking ne va pas de soi dans les écoles de journalisme. On a toutes travaillé dessus ces dernières années, parce que on a dû subir, comme tout le monde, une invasion de fake news. Contrairement à ce qu'on pense, le fact-checking, ça n'est pas juste de la vérification de l'information comme on l'apprend traditionnellement dans les écoles. On vérifie une source, puis on croise cette source et on la recroise avec une troisième pour s'assurer que l'information est véritable. Le fact-checking, c'est vraiment la vérification d'une information qui circule sur les réseaux, qui n'est plus du tout la vérification de la parole de l'homme politique ou de l'économiste. C'est une information qui circule, qui est présentée comme vraie et qu'il faut vérifier parce que la circulation de l'information fait que tout va très très vite et que les gens sont hyper informés et prennent tout pour finalement argent comptant ou pas, ou doutent de tout.
Et vérifier, ça passe aussi par se rendre compte parfois qu'il y a une partie de l'information qui est bonne, mais que cela a été détourné en fait pour faire croire des choses pas vraies.
Voilà, c'est l'instrumentalisation d'une partie de la vérité, ou en tout cas de faits objectivables, parce que la vérité également est subjective. On est dans une ère de post-vérité. Donc finalement, la vérité devient une opinion comme une autre. Donc toute l'idée de ce projet de YouFactCheck, c'est de travailler sur des faits objectivables et remettre finalement les faits au centre de nos préoccupations et donc de dire dans une assertion ceci est vrai, ceci est faux, ou comme c'est le cas dans un des articles les plus passionnants qu'on a sur YouFactCheck sur les serviettes hygiéniques qui contiendraient 90% de plastique, assertion qui a été faite par une marque de serviettes hygiéniques bio, qui disait que toutes les autres avaient 90% de plastique. On a lancé une équipe dessus qui a fait un travail absolument remarquable et nous avons conclu que cette information était invérifiable. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait quand c'est invérifiable ? Ben on lit l'article, on se rend compte que probablement c'est vrai, qu'on n'avait pas les moyens de faire une vérification réelle en labo et de découper les choses, mais au vu du faisceau d'indices, on pense qu'effectivement il y a 90% de plastique dans ces serviettes hygiéniques, mais on ne peut pas le dire à 100%. Donc on l'explique. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que ce doute, finalement, il n'y a pas une vérité, mais il y a une assertion de fait et on laisse le lecteur juger.
Vous l'expliquiez tout à l'heure, vous avez créé des équipes pluridisciplinaires, donc des étudiants en journalisme d'IPJ Dauphine, des universitaires de Dauphine qui travaillent en sociologie ou en affaires publiques, et également des étudiants de l'école des mines qui sont donc ingénieurs sur des sujets environnementaux en particulier. Pourquoi cette volonté justement d'associer ces profils différents et ces cursus différents ?
Ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à IPJ Dauphine, c'est le journaliste avec. Travailler avec des gens pour qui l'information n'est pas une priorité. Expliquer comment le journaliste travaille, d'une part pour ces publics-là. Quand on travaille en statistique avec le département, on travaille en data journalisme avec le département statistique de Dauphine, les statisticiens comprennent que nos élèves n'ont pas forcément une culture mathématique très très forte et donc s'adaptent aussi pour présenter les statistiques de manière intelligible. Mais pour nos élèves, c'est en journalisme, c'est quelque chose de fondamental de travailler avec l'expert et de pas aller les voir 5 minutes, faire une interview et après repartir avec le matériel. L'idée de co-construire un sujet avec ces experts nous amène quelque chose de vraiment différent. Et ce sont des choses qui se passent aujourd'hui dans les rédactions. Il y a tout un tas aujourd'hui de métiers dans les rédactions, des métiers informatiques, de développeurs, etc., de gens qui n'ont pas de formation journalistique, qui ont une appétence pour l'information, mais qui ne sont pas journalistes. Et les journalistes doivent trouver les mots, travailler avec et ne pas travailler en vase clos. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. D'où ce projet YouCheck, avec des étudiants qui viennent de formations complètement différentes, pour travailler sur un objet à vocation journalistique, ou en tout cas, ce que je choisis généralement bien mes mots auprès de ce public non journaliste, de travailler pour quelque chose qui a vocation à informer le public.
Et informer le public sur les questions européennes, est-ce que c'est particulier, plus compliqué peut-être ?
On dit toujours que l'Europe ne passionne pas et on se rend compte pourtant qu'il y a énormément de sujets qui nous impactent au quotidien. Ces histoires de plastique, ces histoires de les problèmes ou les non-problèmes générés par les migrations, les fantasmes générés par tout ce qui est immigration. Les voitures intelligentes, les GAFA, les entreprises type Google, Facebook qui payent ou qui ne payent pas d'impôts, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? Donc on essaye de travailler là-dessus, on a essayé de ne pas travailler du point de vue des institutions européennes, mais de travailler sur des sujets à dimension européenne. Et là, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'appétence de la part de nos élèves journalistes. On a eu aussi quelques courriers, quelques mails de lecteurs et lectrices un petit peu partout dans le monde. Ça intéresse parce qu'on est sur des sujets qui finalement intéressent les gens parce qu'ils sont européens.
Et le maître mot de tout cela aussi et de la façon de traiter ces sujets, c'était de faire preuve de créativité.
Oui. Parce qu'un article de fact-checking, c'est parfois un peu embêtant. Faut bien se le dire, c'est un article qui est très droit, très rigoureux. Et donc, derrière ces articles de fact-checking, qui sont traités et chartés de la même manière dans les 20 pays partenaires de YouFactCheck, on a derrière une rubrique qui s'appelle « Behind the Fact » ou « Derrière les faits » en français, qui explique tout le contexte. Pourquoi, comment cette assertion a eu lieu, pourquoi on a décidé de la vérifier et surtout comment on a fait. Cette idée-là est très importante, le comment on a fait, pour expliquer au public que eux-mêmes peuvent le faire. Et pour que ce soit un peu plus rigolo, on s'est amusé à être très créatif dans cette partie « behind the fact ». Donc on a des vidéos, on a un synopsis de pièces de théâtre, on a un fact-checking dont vous êtes le héros, c'est-à-dire un petit jeu qui explique comment on fait pour fact-checker une assertion et comment on se casse les dents ou pas, et ce qu'il faut faire pour la démarche journalistique ou intellectuelle en tout cas, qu'il faut avoir pour vérifier une information et qui on appelle, comment on voit, comment on se pose des questions, quelle peut, quelle peuvent être les biais que l'on s'est posés et comment on a essayé de les changer, ou en tout cas de faire en sorte d'être véritablement objectif.
Alors, quel est le sujet fact-checké qui a le plus marché, entre guillemets, chez vous ?
Alors, chez nous, comme sur la version française, comme sur la version anglaise, c'est un sujet sur les migrations, une assertion qui a été postée par un membre anciennement des identitaires, proche aujourd'hui du Rassemblement National, qui expliquait que avec le pacte de Marrakech, 380 millions de migrants allaient venir en France. Et cette assertion est fausse, parce que effectivement, ce chiffre n'existe pas, en premier lieu. D'autre part, si effectivement il y a des migrations, le pacte de Marrakech, en tout cas, il n'y a rien dedans. Donc on montre bien qu'il n'y a absolument rien, avec des recherches visuelles dans le texte, par mots-clés, il n'y a rien du tout dedans. On est allé faire appel à des démographes pour parler des chiffres de migration, qui nous ont également expliqué que c'était encore plus faux, parce que si ces migrants, si effectivement on pouvait arriver à des chiffres de migration comme ça sur le continent africain, on se rend compte que quand il y a des migrations climatiques, économiques ou dues à des guerres, les migrants ne changeaient pas forcément de pays, mais allaient généralement du sud vers le nord, ou de l'est vers l'ouest, ou de l'ouest vers l'est, mais toujours dans leur pays. Et en plus, s'ils viennent en Europe, ils viennent pas forcément en France. Donc voilà, on a détaillé ça de manière assez méthodique. Les élèves ont détaillé ça de manière très méthodique pour expliquer que tout était faux dans cette assertion. Ça a beaucoup marché. J'ai parlé également des serviettes hygiéniques. Ça a très très bien marché. Et encore plus quand, après, le magazine 60 millions de consommateurs, travaillant en parallèle de ce côté-là, a sorti un numéro spécial sur les plastiques dans tous ces produits du quotidien.
Alors, si on regarde ensemble le site eufactcheck.eu, qui est donc la version internationale, on va dire la version en anglais de eucheck.fr, qu'est-ce qu'on trouve actuellement ?
Alors, on trouve, lancé début mai, un article d'une école de journalisme allemande qui dit que le crime en Allemagne a été 10% ont augmenté de 10% depuis que les migrants ont été acceptés. C'est quelque chose qui est plutôt faux. Voilà.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que si on regarde votre site, il y a des ronds, des genres de camembert avec écrit dessus plutôt vrai, plutôt faux. Pourquoi c'est plutôt vrai, plutôt faux justement ?
Alors on a choisi, parce qu'on a mis 2 ans à développer ce site et la méthodologie, on a choisi 5 notes pour tout le monde. C'est-à-dire que une assertion, claim en anglais, est soit vraie, soit fausse, soit plutôt vraie, plutôt fausse ou invérifiable. L'idée étant qu'il n'y a pas de vérité pure et dure. Donc on a des choses qui sont entièrement fausses, mais c'est rare. On a des choses qui sont entièrement vraies, c'est rare aussi. Ce qui nous intéresse, c'est le plutôt vrai, le plutôt faux et l'invérifiable.
Donc il y a toujours un petit peu de faux ou de vrai dans les fake news.
Peut-être pas toujours, mais il y a souvent une part dans les assertions des hommes et femmes politiques, des économistes, des spécialistes, une partie vrai, vérifiable, et qui peut être de 10, 20, 30, 60% parfois, 70%. Mais ça, on ne s'est pas amusé à le quantifier. Ce qui nous intéresse, c'est le contexte. Parce que sans contexte, une information n'a pas de valeur.
Et je vois que vous postez 1, 2, 3 sujets par jour.
Oui, chaque école, donc qui correspond à une classe de fact-checking, travaille sur le projet. Donc nous, à IPJ Dauphine, nous avons été les premiers, donc notre partie est terminée. Il y a donc une 20 ou 22 écoles qui travaillent et qui doivent, à date fixe, donner 1 ou 2 articles, plus leur derrière les faits, pour alimenter le site jusqu'au premier tour des élections européennes.
Qui est prévu donc à la fin du mois de mai. Et après ces élections, qu'est-ce que vous avez prévu ?
Alors, le site va s'arrêter, tout comme YouCheck France s'est arrêté, figé. Parce que ce site et ces sites sont une démonstration de la manière dont on peut s'organiser pour travailler de manière uniforme sur le fact-checking. L'idée maîtresse pour nous, c'est que ce site-là n'a pas vocation à être un organe de presse. Ce site-là, cette initiative, a vocation à développer et montrer qu'on peut avoir un enseignement uniforme de fact-checking en Europe et plus après. La méthode qui a été développée et finalisée, mise en forme par le groupe de travail dont j'ai fait partie et qui a été modélisée par deux professeurs d'Anvers, Wouter Fraters et Frédéric Marin,
en Belgique,
conduit à en fait donner à tous les membres partenaires un cursus d'apprentissage du fact-checking dans les écoles de journalisme. Et cette méthode n'est pas brevetée, elle est open source, elle est ouverte, elle est disponible sur le site youfactcheck.eu et sur le site youcheck.fr pour que tout le monde puisse l'appréhender avec des documents explicatifs et nos fameux flowcharts, nos arbres de décision, qui sont au nombre de 3 et qui servent aux élèves pour vérifier si une assertion est vérifiable, de déterminer comment est l'auteur de la source et ensuite de faire le fact-checking en lui-même.
Ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est qu'il n'est plus possible maintenant de faire une formation au journalisme sans avoir une classe ou des cours de fact-checking.
Aujourd'hui, en tout cas en France, toutes les écoles de journalisme dites reconnues ont intégré leur cursus du fact-checking, absolument.
Et au niveau européen également ?
Au niveau européen, oui, depuis 2 ans, tous nos partenaires de l'ECHTA, l'Association Européenne des Écoles de Journalisme, a un cours de fact-checking.
Et sentez-vous qu'il y a des étudiants dans votre école, donc à l'Institut Pratique du Journalisme, qui ont la fibre et ont vraiment envie de se spécialiser dans le fact-checking ?
On en a évidemment quelques-uns. Il faut savoir que depuis 3 ans maintenant, le cours de fact-checking est un cours optionnel en deuxième année, donc un cours presque de spécialisation, mais qu'à partir de l'année prochaine, ce cours va arriver dans le tronc commun. Il va être donné en première année, au même titre que les cours d'écriture journalistique ou de base de télévision. Et on veut que ce fasse partie du trousseau, du kit que tout journaliste qui sort de chez nous aura eu. Donc effectivement, certains vont s'en servir pour faire du fact-checking, comme c'est le cas en France, au Monde avec les décodeurs, dans la cellule de 20 minutes Fake Off, ou à Libération, le service des intox, ou dans tout autre, il y en a à l'AFP Factuel, TF1, France 2, ont aujourd'hui des cellules de vérification de l'info qui vient du net. Donc certains vont se spécialiser, d'autres, eux, auront intégré cela et vont en 2 minutes fact-checker une vidéo, fact-checker une photo, un texte pour travailler dans leur rédaction et ne pas relayer des informations douteuses.
Merci Eric Mahon.
Je vous en prie.
Et on rappelle donc les sites eucheck.fr et eufactcheck.eu. À bientôt.
À bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Cette semaine, Carole Rico, installée à l'île Maurice, dans l'océan Indien, nous parle des fake news qui pullulent sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux que nous sommes nombreux à utiliser.
Fake news, fake news, fake news. Impossible d'échapper à cette expression, tant elle a été martelée par le président américain Donald Trump.
Don't we love that term, fake? What we've learned about fake over the last little while? Fake news!
Aujourd'hui, c'est une des expressions les plus utilisées sur les réseaux sociaux, où ces fake news pullulent. Quand sont-ils devenus des réseaux asociaux?
Oh, je vous jure qu'il y a des échanges, j'ai envie de les...
Là où la radio unissait, Internet trie et cible. Nos vies numériques sont aujourd'hui gouvernées par de puissants et obscurs algorithmes. Ces redoutables intelligences artificielles ont le pouvoir de nous maintenir dans une bulle cognitive, concept développé par l'Américain Eddie Pariser.
You get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal unique universe of information that you live in online.
À force d'être entouré d'informations filtrées par des algorithmes en fonction de nos amis et de nos précédents choix numériques, nous sommes plongés, malgré nous, dans une bulle cognitive qui renforce notre perception du monde et nos propres convictions. Mais, aussi redoutable soit-il, les algorithmes ne savent pas distinguer le vrai du faux. Et voilà comment les réseaux sociaux, qui doivent être nourris en permanence, s'agitent, vivent et grandissent, souvent au moyen de rumeurs et de contre-informations relayées par on ne sait trop qui. Sur Internet, tous les coups sont permis.
Mondoblog.org.
C'était Carole Rico, que vous pouvez retrouver sur son blog Zil Maurice, avec un Z. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission, que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Nous vous parlerons depuis le salon Vivatech à Paris. On recevra notamment Éric Léandry, le PDG du moteur de recherche français Quant. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.